voix nue. Cette semaine, France Culture rend hommage à Jean Starobinski, récemment disparu. Le théoricien de la littérature s'entretenait en 1999 avec Gérard Massé. Ce soir, la parole est à moitié à celui qui parle et à moitié à celui qui écoute.
Jean Starobinski, bonjour. Nous sommes chez vous, à Genève. Et avant tout préambule ou toute présentation, j'aimerais mettre en exergue une phrase de Montaigne que vous avez vous-même citée, qui est celle-ci. La parole est moitié à celui qui parle, moitié à celui qui écoute. Quand on est à la radio, naturellement, cette phrase peut prendre un sens évident, presque trop, parce que limité. Mais si on la sort de ce contexte particulier, veut-elle dire que toute parole s'enrichit de l'écoute de l'autre, ou au contraire que nous sommes toujours dans le malentendu ?
J'opte pour le premier sens. Le malentendu est toujours possible, mais je crois qu'une parole n'est entièrement parole que lorsqu'elle a passé l'intervalle qui sépare celui qui parle et celui qui écoute. Et l'écoute d'une parole est une façon de se l'approprier. Ça a été un peu mon métier que d'être un écoutant. Maintenant, conversant avec vous, m'adressant à des auditeurs à travers notre conversation, c'est eux qui recevront, c'est eux qui pourront s'approprier ces mots, les transporter en eux. Je crois que ce qu'il y a dans la vie de la parole qui est émouvant, c'est qu'elle ne s'arrête jamais, c'est qu'elle n'est jamais en repos et que chacun peut emporter la parole d'un ami ou la parole d'un prédécesseur qui, de la sorte, n'aura pas parlé en vain.
Alors peut-être que pour les auditeurs, il faudrait commencer aussi par dire un peu qui vous êtes, enfin leur donner quelques précisions. Je disais que nous sommes à Genève chez vous, c'est là que vous êtes né, c'est dans cette ville que vous avez vécu. Et j'ai envie de dire, si vous l'acceptez, que vous êtes vraiment un citoyen de Genève, exactement comme cet autre fameux citoyen de Genève auquel votre nom est attaché, même pour les lecteurs un peu distraits qui n'auraient pas regardé tous vos livres, j'ai nommé Jean-Jacques Rousseau. Est-ce que vous acceptez à la fois cette appellation et cette filiation aussi ?
En songeant à Rousseau et à la société genevoise de son temps, j'accepte ce terme de citoyen, puisque je le suis maintenant, mais pendant longtemps j'ai été fils de parents dont, à l'époque de Rousseau, on aurait dit qu'ils n'étaient pas citoyens, mais des habitants de Genève. Genève était une ville où la citoyenneté devait se donner ou se conquérir, oui, par ceux qui venaient du dehors, et mes parents sont venus du dehors en 1913, tous deux venant étudier à l'université de Genève parce qu'ils n'avaient pas accès aux universités russes, et tous deux devant ainsi à ce déplacement à Genève, cette volonté d'étudier dans une ville prestigieuse, ce qui allait constituer leur destin, finalement quelque chose qu'on peut appeler leur bonheur.
Ils venaient de Pologne, n'est-ce pas ?
Ils venaient de Pologne, oui.
Et que représente alors pour vous aujourd'hui la Pologne ? Est-ce que c'est un arrière-pays, pour reprendre le titre de votre ami Yves Bonnefoy, ou est-ce que c'est un pays situé nulle part, comme dirait Alfred Jarry ? Est-ce que vous y retournez ? Est-ce que dans votre horizon mental, par exemple, la Pologne est présente ?
Ce pays est présent à travers les récits, la langue que parlaient parfois entre mes parents, qui généralement parlaient français et le possédaient très bien. Quelques récits, trop peu, je n'ai pas assez fait parler mes parents. Je sais mal qui étaient mes ancêtres. Quelques anecdotes simplement jalonnent l'histoire que je me raconte, oui, de mon père. Ayant quitté son pays, il rencontre un personnage dans le train qui lui demande où il se rend. Et le personnage, quand il apprend que mon père va étudier à Genève à 19 ans, le met en garde, et comme on parlait quelquefois latin pour solenniser les choses, il avertit mon père, refugium omnium virorum perditorum. Genève était une ville cosmopolite où des réfugiés, des étudiants de toute nationalité, des Balkans, de Russie venaient travailler.
On se souvient au moins de Lénine et de Tristan Tzara.
Tout cela était très agité. Le quartier où habitaient mes parents, qui est celui que j'habite toujours, le quartier de Plainpalais, voyait survenir parfois des bagarres entre étudiants. Toutes les tendances politiques de l'époque étaient représentées. Sur les marches de l'école de médecine, on se battait quelquefois à coups de tibia, puisqu'il y avait des tibias et des squelettes pour les démonstrations anatomiques. Et tout cela m'a été raconté par mon père.
Jean Sarobinski, votre père était médecin?
Il était médecin, mais il est arrivé à Genève à 19 ans avec l'intention d'étudier la philosophie. Et il a étudié pendant un an la philosophie. La guerre éclate, il ne peut plus rentrer en Pologne. Ouais. Certains de ses camarades le peuvent, et il reste à Genève. Et il reste à vivre de très petits moyens, donnant des leçons, ne recevant plus d'argent de sa famille, et vivant dans le milieu des étudiants, mais aussi faisant quelques amitiés genevoises très, très solides et très fidèles. Donc il y avait des amitiés genevoises en même temps que des liens très forts et parfois conflictuels avec ses camarades venus de Pologne ou de Russie. Et il y avait beaucoup de femmes venues de Russie, ça a été le cas de ma mère. On commence à faire des études sociologiques sur ces étudiantes, ce féminisme des étudiantes russes qui ont représenté un très fort contingent en Suisse, à Zurich et à Genève.
Mais vous avez été vous-même fidèle à ce milieu, ces amitiés et cette double vocation de votre père. Et puis vous avez fait vous-même des études de médecine et de lettres. Dans quel sens? Je crois que c'est d'abord les études de médecine.
Non, c'est d'abord les études de lettres.
Ah, c'est d'abord les études de lettres.
Mon père les a interrompues au bout d'une année. Après avoir suivi ces très originales écoles genevoises qui était la maison des petits de Claparède et qui allait bientôt être l'institut de Piaget, puis l'école primaire et le collège Calvin, où l'enseignement du grec et du latin était remarquable, j'ai commencé les études de lettres à l'époque où elles duraient 3 ans. Et ça a été à cette occasion que ma connaissance avec Marcel Raymond s'est produite, a eu lieu, et ça a été une amitié pour toute la vie.
Et dans quelles conditions, alors, vous avez commencé vos études de médecine? C'est parce que les études de lettres vous paraissaient insuffisantes, ou parce que c'était deux façons d'aborder l'humaine condition, enfin comme la face nord et la face sud d'un sommet, d'une montagne ou d'un problème?
Eh bien, nous étions en 1942, l'université de Genève était une très petite académie où les disciplines étaient représentées par un seul professeur. La Suisse était mobilisée, c'était la guerre. Moi-même, je n'étais pas encore devenu suisse, on était en Suisse un peu regardant quand il s'agissait de naturaliser les Polonais. Et cette malchance, si j'ose dire, a été ma chance. Car tandis que mes camarades faisaient des mois de service militaire, ma qualité d'étranger me permettait d'entrer immédiatement après mes études de lettres dans les études de médecine, encouragé évidemment par des parents tous deux médecins, qui voyaient bien que la carrière des lettres était mince et pas très prometteuse pour...
Oui, elle était mince, socialement, c'est ainsi que vous l'entendez. Mais j'imagine que ça n'est pas la seule raison pour commencer de la médecine. Surtout étant donné qu'on connaît la suite.
Si je oui, dire, oui, oui, ce n'était pas la seule raison.
Ce que vous êtes devenu et ce que vous avez écrit, j'imagine qu'il y avait une raison plus profonde.
Effectivement. Les 3 années de lettres qui m'avaient familiarisé avec un peu de philosophie, beaucoup de littérature, les Grecs et les Latins, c'est ce qu'on appelait la licence S-lettres classique, me laissait un peu sur ma faim du côté de la philosophie.
C'est ce que j'imagine, voilà.
Et ce sont des lectures comme les premiers ouvrages de Canguilhem, le livre sur le normal et le pathologique.
J'ai vu d'ailleurs que dans votre dernier livre, celui qui vient de paraître, Action et réaction, le nom de Georges Canguilhem apparaît.
Oui. C'était une de mes premières lectures. Et déjà aussi au cours des enseignements de Marcel Raymond, le nom de Bachelard était apparu.
Oui.
Les livres sur l'eau et les rêves, peut-être aussi L'air et les songes avaient déjà paru au moment de la licence.
Et
La formation de l'esprit scientifique, qui est un beau livre.
Oui.
Existait déjà et m'avait séduit, et la tentation existait pour moi, non pas seulement d'exercer la médecine, mais d'aller y voir de plus près en ce qui concerne l'approche scientifique du monde, de la réalité.
Voilà, et est-ce que c'est de la rigueur que vous demandiez à la médecine, une rigueur que vous ne trouviez pas dans les lettres, encore que la médecine soit elle-même souvent fort incertaine?
C'était une approche où l'épreuve des expérimentales tranchait.
Ouais.
Alors que dans l'ordre littéraire, on peut rester en suspens, on peut ne pas trancher, les points de suspension sont presque la règle. En médecine, qui était déjà une discipline conquérante, le sentiment que j'avais, c'était que la mise à l'épreuve de l'universalité du propos était la règle. Ce que l'on avançait devait être confirmé. Et cette confirmation scientifique m'a toujours paru quelque chose de rassurant. Avec le départ perpétuel vers de nouvelles questions, bien sûr.
Et enfin, il y a l'exigence de résultats. Aussi en médecine. Enfin, quand on est thérapeute, il faut tout de même bien essayer de soigner.
Oui, oui, oui.
Il y a une responsabilité supplémentaire.
Oui.
Et je me demande si dans votre cas, cette responsabilité qui se manifeste aussi dans vos écrits, qualifions-les de littéraires pour aller vite, elle est à l'œuvre. Enfin, elle me paraît tout à fait évidente. Vous avez le souci de lester vos propos, d'apporter des preuves, et non pas de vous figer dans les conclusions, mais tout de même d'essayer d'en présenter.
En effet, il me semble qu'une certaine joie ou un certain coup de lumière peut être attendu dans l'enchaînement qui aboutit à une conclusion dont on va tirer une règle pratique qui va permettre d'entreprendre un traitement, qui va permettre d'appliquer une règle de conduite que le consensus scientifique demande. Du coup, quelque chose de plus rassurant, avec tous les périls qui peuvent toujours entourer la décision médicale, quelque chose de plus rassurant dans la vie se propose.
Et alors, vous êtes devenu psychiatre aussi. C'est-à-dire que vous n'avez pas été n'importe quel médecin. Et vous avez enseigné et exercé de ce point de vue.
En fait, ma première carrière médicale, après les études du tronc commun de la médecine, oui, ça a été la médecine interne. Ça a été la clinique médicale. Et la psychiatrie m'a intéressé après un retour à la littérature aux États-Unis entre 1953 et 1956. Ça a été ma dernière année médicale. La toute dernière de mes activités médicales a été un poste d'interne, a été un travail d'interne à l'hôpital psychiatrique proche de Lausanne, l'hôpital de Sury, entre 1957 et 1958. À ce moment, j'avais déjà, aux États-Unis, mis sur le papier bien des pages sur Montaigne et ma thèse sur Rousseau. En somme, je n'ai pas abordé Rousseau en psychiatre,
oui.
J'ai fait ensuite de la psychiatrie en lecteur de Rousseau.
Oui. Mais pourquoi avez-vous cessé d'exercer? C'est parce que ce sont les hasards de la carrière, on vous a appelé aux États-Unis, vous avez saisi cette chance, ou est-ce qu'il y a d'autres motifs ?
En fait, le voyage que j'ai fait aux États-Unis entre 1953 et 1956, je le dois à Georges Poulet, qui voulait m'arracher à la médecine, mais qui voulait aussi m'offrir la possibilité de développer des compétences en histoire de la médecine. Or, Baltimore, Johns Hopkins, c'était le centre d'une activité d'histoire de la médecine, ouais, inaugurée par Sigrist, développée par l'admirable Temkin, où le savoir de l'histoire médicale était un savoir complet, total, approfondi. Il n'était pas simplement un savoir de médecin dilettante, ce qu'il a beaucoup été à travers l'Europe, le médecin qui prend sa retraite et qui joue un petit peu avec les livres du passé. Non, c'était vraiment l'approche la plus sérieuse, philologique, sociologique de l'histoire médicale. Et en même temps, je gardais des contacts avec la clinique, avec la pathologie. Donc, je restais encore dans une phase d'indécision, tout en enseignant à la faculté des humanités et en enseignant Montaigne, Corneille, Racine, des auteurs sur lesquels j'ai écrit à ce moment même.
Mais vous faisiez allusion à ce séjour aux États-Unis. J'ai l'impression que c'est le seul séjour prolongé que vous ayez effectué hors de Genève, et donc je voudrais revenir à ce lieu où nous sommes ensemble aujourd'hui, parce qu'il y a aussi un milieu genevois. Vous avez fait allusion à Marcel Raymond, par exemple, vous avez eu d'autres amitiés, vous avez rencontré Pierre-Jean Jouve en Suisse, vous avez rencontré Balthus, etc. J'ai l'impression que ce milieu vous a été absolument nécessaire, enfin ça a été comme quelque chose à la fois de rassurant et de stimulant. Est-ce que je me trompe ?
Le milieu genevois a comporté pour moi un aspect stable, des amitiés, des camaraderies, et puis des événements prodigieux et accidentels ou dramatiques, mais vécus indirectement. Un événement prodigieux, c'est, à cause du malheur de l'Espagne, la présence à Genève des trésors du Prado. Et une exposition bouleversante de tout ce qu'on voit maintenant au Prado. Les salles de notre musée contenaient les Goya, les Velázquez, les Titiens du Prado. Et je me souviens de très longs rêves devant la Bacchanale des Andriens, qui aujourd'hui est encore un des grands tableaux inducteurs de rêves dont mon imagination se nourrit. Je n'en ai pas fini avec ces tableaux-là, je n'en ai pas fini avec les patinirs. Rencontrer des tableaux de ce type à 18 ans, dans des salles presque vides, ce sont des rencontres bouleversantes. Et plus tard, lorsque Jouve, pendant la guerre, vient à Genève, il a passé par, il a connu l'Exode, il a passé par la Côte d'Azur, par Dieulfi, il arrive avec le manuscrit du Don Juan de Mozart, il lit en public le Don Juan de Mozart, il faut qu'un étudiant tourne la manivelle du gramophone pour faire entendre les enregistrements de Glyndebourne. L'étudiant, c'est moi, et j'écoute. Donc il y a des choses inoubliables qui se sont passés là. Et cette Genève est plutôt la Genève des autres, la Genève des gens de passage. Un de mes camarades de collège, qui s'appelle Heinz Marasse, était un Berlinois et m'amenait quelquefois chez lui goûter avec sa sœur Ursula, et sa mère était là veillant à nos goûters. La famille s'en va. Je trouve un beau jour dans une boîte de bouquiniste un livre qui sont les élixirs du diable avec un ex-libris collé du nom de sa mère, Felice Marasse. Mais le livre d'à côté, c'est Der Landarzt de Franz Kafka, et l'ex-libris c'est Felice Bauer. Si bien que je me suis aperçu beaucoup plus tard, que ce milieu berlinois où j'allais entendre parler le bon allemand, c'était la famille qu'avait fondée la fameuse fiancée de Kafka.
Bien sûr, et d'ailleurs c'est l'occasion de rappeler que l'une de vos premières publications, ça a été une traduction de récits de Kafka, un choix en tout cas de ce qu'on connaissait à l'époque, et avec une préface assez importante, enfin elle fait plusieurs dizaines de pages. Vous ne l'avez jamais laissé reparaître.
Oui,
je suis de ceux qui le regrettent un peu.
Ça a été une activité pour alimenter et faire vivre cette revue qui paraissait à Genève à partir de la fin de 1942. Animé par Pierre-Jean Jouve et le groupe qui l'entourait, dont faisait partie Marcel Raymond, qui avait préfacé Porche à la nuit des saints, le premier des livres de Jouve paru en Suisse, c'est peut-être un des plus beaux livres de Jouve. Et cette revue devait respirer, avoir une ouverture non seulement en Suisse et romande, mais on était en pleine tragédie, il fallait regarder du côté de l'Europe entière. Et la revue d'ailleurs s'est consacrée à des numéros sur l'Italie, sur l'Autriche, en faisant passer des textes plus ou moins clandestinement de ces divers pays. Et le numéro autrichien était dominé par la figure de Musil, qui venait de mourir à Genève. Il n'était pas un patient de mon père, mais il s'était trouvé que, étant mort assez subitement, on a appelé son médecin, qui n'était pas là, et mon père est accouru en 3 ou 4 minutes, ça se passait dans le quartier de Champel, pour le trouver mort dans sa salle de bain et signer le bulletin de décès. Donc je n'ai pas beaucoup interrogé sur cette très petite maison où Musil avait été malheureux, il avait été en butte à des très médiocres persécutions de permis de séjour et d'interdiction d'activités lucratives. Tout ceci fait partie de l'examen de conscience de la Suisse actuelle, sur le fond quand même qu'il faut bien reconnaître que c'était là que pouvait respirer Musil. Il n'y avait pas d'autre lieu en Europe pour lui, et ça reste quand même quelque chose de très significatif que cette Genève où vivaient aussi des groupes tolstoïens, où tant d'étrangers apportaient un esprit tellement nécessaire, cette Genève-là existe et a cherché à persévérer dans cette fonction d'accueil.
Dans un petit volume qui est paru il y a à peu près une dizaine d'années dans une collection de format de poche mais en Suisse et qui s'appelle Table d'orientation, vous avez écrit une préface qui évoque un peu tout cela, non pas dans le détail, mais dans laquelle vous dites « La physionomie romande de ce livre tient à mon éducation et à mes goûts, à mes liens d'amitié et de gratitude, vous en avez un peu parlé, bref, à des empreintes de la mémoire qui font écrire avec plus d'affection, parfois aussi avec plus de déférence. Plus d'affection et plus de déférence. Vous pourriez nous dire vis-à-vis de qui ou à propos de quoi ?
Il y a eu beaucoup d'expériences qui ont compté, beaucoup. Je n'oublie pas les concerts du dimanche auxquels mon père m'amenait et où Ansermet répétait pour un public populaire à 5 heures de l'après-midi, ou un peu plus tôt, les concerts d'abonnement. Et je me rappelle les œuvres alors toutes nouvelles qu'on présentait. C'était le boléro de Ravel, Ansermet jouait aussi beaucoup les grands poèmes symphoniques ou les grands ballets. Stravinsky était présent. Bref, je ne me doutais pas qu'en allant à ces concerts, après lesquels on allait à la rue de Carouge acheter quelques gâteaux pour le goûter, c'était la musique de pointe, c'était la musique la plus avancée qui se faisait sur le moment même. Alors comment ne pas avoir ce mouvement de gratitude à l'égard du chef qui avait le courage de présenter cette musique et le talent aussi de la rendre si merveilleuse. Donc là, il y a des reconnaissances infinies.
Puis vous jouez vous-même du piano ?
Oui, en amateur.
En amateur, certes, mais enfin, mais on peut assez régulièrement, non ? Enfin, c'est...
beaucoup moins régulièrement que par le passé. Lorsque je travaillais dans le passé, je prenais parfois un petit entracte pour me déchiffrer mal ou bien, je ne sais, une sonate de Scarlatti ou une suite de Bach qui était dans mes moyens.
Et ce déchiffrement, ce jeu, avait quelque chose à voir avec votre phrase quand vous écrivez ou non ?
Oui. La phrase musicale, enfin la phrase classique, me paraît maintenant de plus en plus quelque chose d'émouvant, presque aux larmes. Dans telle symphonie de Haydn, un menuet est a rovescio. Première phrase, une suite de notes dans un sens. Deuxième phrase, la même suite de notes renversée dans une superbe symétrie. Et avec une marche qui nous fait retomber dans la tonalité. Et ça me paraît tellement beau, ce jeu de miroir dans le temps de la marche mélodique, que je ne peux me lasser d'y revenir. Et il fut un temps aussi, mais comme dans beaucoup de familles de Suisse, et même d'Allemagne, où on faisait de la musique le soir, l'Abendmusik, et de la musique de chambre. Il se trouve que deux de mes fils sont musiciens, et sont des amis de musiciens, et dans le lieu où nous parlons, ont eu lieu d'innombrables concerts de jeunes gens de 17, 18, 20 ans, qui se rencontraient pour faire du quatuor ou des trios ou des lieder. Et ça a fait partie de mon existence. Et je sens que c'est, quand on lit Rousseau, on s'aperçoit qu'à l'île de Saint-Pierre, la journée s'achève aussi par une musique du soir. Et il y a ce côté de la vie suisse romande qui peut-être tend à s'effacer parce qu'on offre tant d'amusements, tant d'occasions de sortie qu'on ne fait plus de la musique chez soi et avec ses doigts. Mais ça existe encore et bel et bien, il faut quand même le maintenir. Et c'est là vivant. Ben, ceci est encore un petit aspect de la vie, disons, que je considère comme celle de Genève.
Je pense que ce souci musical est lié aussi au sentiment de la poésie, enfin que c'est indissociable et que peut-être aujourd'hui la poésie elle-même souffre du fait que nous ne sommes plus musiciens.
Je le crois. Je crois que réécoutant les choses qui passaient pour être conventionnelles, on rajuste son jugement. Que la poésie ait été autrefois une diction et une diction rythmée, le vers de Racine dit par la chant mêlée, eh bien ceci est quand même très évident quand on écoute le fameux monologue d'Armide que Rousseau critique chez Lully et qui cependant, lorsqu'on le réécoute, est une merveille de pondération des syllabes, de rétablissement d'une statique du corps droit après le moment de la passion où l'être se dissipe. Il y a ces alternances de tension, de détente, de retour à l'accord, qui est quelque chose qui s'est perdu.
Une pulsation qui se sent et qui implique un rythme et une régularité.
Exactement.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Gérard Massé avec Jean Starobinski, enregistrée en 1999. À voix nue, réalisation Bruno Sourcy, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.